Chapitre 5. Forger un marteau. Malgré la neige, il courait sans peine dans la nuit. Ne faisant qu'un avec les ombres, il se faufilait dans la forêt, la lumière de la lune à ses yeux aussi claire que celle du soleil. Le vent glacial qui ébouriffait son épaisse fourrure charria soudain une odeur qui lui glaça les sangs, fit battre la chamade à son cœur et l'emplit d'une haine féroce. Deux fois plus brûlante que pour les jamais nés, ceux que les deux pattes appelaient des myrdrales. Avec la haine vint la certitude que la mort approchait. Pour le moment, pas de choix possible. Il accéléra le rythme, en route vers sa fin. Dans les ténèbres profondes qui précèdent l'aube de peu, Perrine se réveilla en sursaut, sous la charrette de ravitaillement à grandes roues où il avait trouvé refuge. Malgré son manteau doublé de fourrure et deux couvertures, le froid montant du sol lui avait glacé les os, et la bise, trop légère pour mériter le nom de vent, restait atrocement mordante. Quand il se massa le visage avec ses mains gantées, du givre craqua dans sa courte barbe. Au moins, il n'avait pas reneigé dans la nuit. Trop souvent, même sous un abri, Perrine se réveillait couvert de poudreuse, et ses chutes régulières ne facilitaient pas la tâche des éclaireurs. Le jeune homme regretta de ne pas pouvoir contacter Elias comme il contactait les loups. Dans ce cas, il n'aurait pas dû subir cette attente interminable. Épuisé du matin au soir, il n'aurait su dire à quand remontait sa dernière bonne nuit de sommeil. Cela posé, ça n'avait aucune importance. Ces jours-ci, seule la colère lui donnait la force de continuer. Le songe l'avait-il réveillé? Franchement, il en doutait. Chaque nuit, en s'étendant, il anticipait des cauchemars, et ça ne ratait jamais. Dans le pire de tous, il découvrait le cadavre de Fayle, ou ne la retrouvait pas du tout. Là, il s'éveillait ruisselant de sueur froide. Dès que ses rêves étaient moins horribles, par exemple quand des trollocs le découpaient vivant pour le faire cuire ou qu'un drakkar dévorait son âme, il parvenait à continuer sa nuit. Son dernier songe s'effilochait très vite, comme il sied à un rêve. Pourtant, il se souvenait d'avoir été un loup qui sentait... quoi exactement? Quelque chose que les loups détestaient plus que les myrdrales, un adversaire capable de les tuer. Les connaissances instinctives dont il bénéficiait dans le rêve l'avaient abandonné, lui laissant de très vagues impressions. Il n'avait pas évolué dans le rêve, ce reflet du monde où vivaient des loups défunts que les vivants pouvaient aller consulter. Après, un songe de ce type restait toujours très clair dans sa tête, que la visite ait été délibérée ou non. Certes, mais le songe de ce soir semblait réel, avec une notion d'urgence. Étendu sur le dos, Perrine envoya son esprit à la recherche de loups. Pour l'aider dans sa traque, il avait tenté de recourir à ses frères, mais sans résultat. Les convaincre de s'intéresser au problème des deux pattes n'était pas aisé, un bel euphémisme. D'instinct, il fuyait les gros groupes d'humains, et pour eux, six deux pattes étaient déjà une force importante. Les hommes chassaient le même gibier que les loups, qu'ils tuaient aussi à vue pour la plupart. Au début, la sonde mentale fit long feu, puis elle entra en contact avec des loups à une très grande distance, si grande en réalité que ça revenait à capter un murmure à la lisière de son champ d'audition. Très loin, oui. Eh bien, c'était étrange. Malgré quelques villages très éparpillés, voire une petite ville parfois, cette région semblait idéale pour les loups. Des terres boisées pour l'essentiel, avec des cerfs et du plus petit gibier. Pour parler avec une meute inconnue, il y avait un rituel à respecter. Poliment, Perrine envoya son nom aux loups, jeunes taureaux, leur fit partager son odeur et reçut les leurs en réponse. Grand ours, queue blanche, plume, brume du tonnerre et tant d'autres. Une meute de bonne taille, dirigée par chasseuse de feuilles, une femelle expérimentée et confiante. Très intelligent et encore jeune, Plume était son compagnon. Tous deux brûlaient d'envie de parler avec l'ami du légendaire Long Croc, le premier deux pattes qui avait réappris à parler avec les loups après une interruption si longue que ce souvenir se perdait dans les brumes du temps et la ronde des âges. Pour Perrine, un torrent d'images et de réminiscences olfactives se déversait dans son esprit, afin qu'il les transforme en mots. Pour ses frères, c'étaient les mots qui se changeaient en images et en odeurs.
« J'ai besoin de savoir quelque chose »,
pensa-t-il, lorsque les présentations furent terminées.
« Les loups, que détestent-ils plus que les jamais nés ?»
Ajouter l'odeur captée dans le rêve aurait été utile, mais ce souvenir s'était effacé de sa mémoire.
« Pour un loup, c'est associé à la mort. »
Dans le silence qui suivit, Perrine sentit un mélange de peur, de haine, de réticence et de détermination. Chez ses frères, il avait déjà capté de la peur. La plus forte, c'était celle d'un grand feu de forêt qui dévaste tout sur son passage. Mais cette angoisse-là ressemblait à celle qui saisit un humain, lui donne la chair de poule et le fait sursauter à chaque mouvement dans les ombres. Même mêlé à la détermination de continuer à tout prix, c'était un sentiment proche de la panique. Les loups ignoraient ce genre de terreur. À part cela, les uns après les autres, ils se retirèrent de la conscience du jeune homme, une manière délibérée de le fuir, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que chasseuse de feuilles.
« La dernière chasse approche, »
dit-elle, avant de disparaître à son tour.
« Vous ai-je offensé ?»
demanda Perrine.
« Si oui, c'était par ignorance. »
Il n'y eut pas de réponse. Ces loups ne lui parleraient plus, en tout cas pas de sitôt.
« La dernière chasse approche. »
Le nom que les loups donnaient à Tarmogaidon, l'ultime bataille. Lors de cette confrontation entre la lumière et les ténèbres, il savait qu'il serait présent, même s'il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Certaines choses étaient écrites, aussi sûrement que l'alternance du jour et de la nuit. Lors de la dernière chasse, beaucoup de loups tomberaient. Mais ce n'était pas ça qui les terrorisait. Perrine aussi savait qu'il devrait être présent ce jour-là. À tout le moins, c'était son destin. Pourtant, si l'ultime bataille arrivait trop tôt, il serait absent. À cause d'une mission à laquelle il ne pouvait et ne voulait pas se dérober, même pour Tarmogaidon. Chassant de son esprit les peurs innommées et l'ultime bataille, il retira ses gants et plongea une main dans sa poche pour retrouver la lanière de cuir dont il ne se séparait plus. Comme chaque matin, il y ajouta un nœud, puis les compta tous. 22 levées de soleil depuis le rapt de Feil. Au début, compter ne lui avait pas paru utile. Le premier jour, il s'était cru glacé et engourdi, certes, mais lucide et concentré, alors qu'il s'était laissé déborder par la fureur et le besoin impérieux de trouver au plus vite les Shaido. S'il y avait des membres d'autres tribus parmi les Aiel qui lui avaient pris sa femme, les Shaido restaient les plus nombreux, et il appelait donc ainsi ses ennemis. Le désir de leur reprendre Feil avant qu'il lui ait fait du mal l'avait saisi à la gorge, manquant l'étrangler. Bien entendu, il sauverait les autres femmes capturées avec elle, mais bien souvent, il devait se répéter leurs noms afin de ne pas les oublier pour toujours. Aliandre Marita Kigarin, la souveraine du Géaldan qui lui avait juré allégeance. Pour un forgeron, avoir un lien de ce type, surtout avec une reine, semblait incroyable et contre nature. Enfin, pour un ancien forgeron. Quoi qu'il en soit, il avait des responsabilités envers Aliandre, qui n'aurait jamais été en danger sans lui. Bane, du clan de la Roche Noire des Aiel Shaharad, et Shiad, du clan de la Rivière de Pierre des Aiel Goshienne, deux promises de la lance qui avaient suivi Feil au Géaldan et en Amadicia. À Deux Rivières, quand Perrine avait eu besoin de toutes les personnes capables de tenir une arme, elle s'était dressée face à des Trollocs. Une loyauté qui leur donnait le droit de compter sur lui. Arela Chiego et Lassil Aldorwin, des têtes de Linod qui croyaient pouvoir devenir des Aiel, dans une version très caricaturale. Toutes deux avaient juré allégeance à l'épouse de Perrine. Même chose pour Megdin Dorlane, une réfugiée sans le sou que Feil avait prise sous son aile, lui offrant un poste de dame de compagnie. Perrine ne pouvait abandonner les fidèles de sa femme, Feil ni Bachere Taibara. La litanie des noms se terminait toujours sur celui de l'être qui représentait tout pour lui. Avec un grognement, il serra si fort la lanière que les nœuds s'imprimèrent dans sa paume, pourtant durcie par de longues journées passées à jouer du marteau dans une forge. Lumière, 22 jours. Le travail du fer lui avait appris que toute précipitation ruine la matière première. Pourtant, au début de la traque, il avait été trop vite. Voyageant vers le sud via des portails ouverts par Grady et Néald, il avait suivi la piste sans prendre le temps de la réflexion, ni laisser aux deux achamans le temps de restaurer leurs forces. Impatient chaque fois qu'il devait se reposer un peu après avoir ouvert un portail, en le maintenant assez longtemps pour que tout le monde passe, il n'avait qu'une idée en tête, libérer Fail à n'importe quel prix. Tout ce qu'il avait gagné, c'était des jours de souffrance morale, tandis que les éclaireurs s'enfonçaient de plus en plus dans des terres sauvages désertes, sans découvrir l'ombre d'une empreinte. Au bout du compte, Perrine avait dû revenir sur ses pas, excédé de mettre des jours à couvrir des distances que les achamans lui avaient permis d'avaler en une enjambée. Infatigable, il s'était lancé à la recherche de l'endroit où les Shaido avaient changé de direction. Il aurait dû savoir qu'il le ferait. Si avancer vers le sud les éloignait des terres enneigées qui les déconcertaient tant, les Aiel savaient que ça les rapprochait des Boudar, qui grouillaient de ces Anshaniens. S'il était informé de la chute de la ville, les Shaido l'étaient aussi. Là encore, il aurait dû le savoir. Les ravisseurs de Fail, des maraudeurs en quête de pillage, n'avaient rien de guerrier prêt à affronter l'Empire et ses damanes. Des jours durant, Perrine et sa colonne avaient suivi les éclaireurs sous des tempêtes de neige qui aveuglaient jusqu'à ses aïels et imposaient des haltes à tout le monde. Puis John Dean Baran avait remarqué une marque de chariot sur un tronc d'arbre et Elias, sous la neige, avait découvert une lance aïel brisée. Enfin, Perrine avait su où aller. Vers l'est, 2 jours au sud de l'endroit où l'avait conduit le premier portail. Devant ce gâchis, il avait eu envie de hurler, mais il s'était retenu. Alors que Fail comptait sur lui, il ne pouvait pas se permettre de craquer, si peu que ce soit. À partir de là, il avait entrepris de maîtriser sa colère, de la forger en un sens. Les Shaido avaient une énorme avance à cause de sa précipitation. Désormais, il se montrait aussi méticuleux et précis qu'à la forge. Durci et modelé, sa colère devenait une arme. Une fois la piste des ravisseurs retrouvée, il n'avait jamais voyagé, en une fois, plus loin qu'un aller et retour des éclaireurs, entre l'aube et le crépuscule. Une saine précaution, puisque les Shaido changeaient sans cesse de direction, comme s'ils ne parvenaient pas à choisir une destination. Où se déroutaient-ils pour rejoindre des groupes de complices? En guise d'indice, il fallait se contenter de pistes refroidies et de camps recouverts de neige. Pourtant, tous les éclaireurs étaient d'accord. En chemin, les rangs des Shaido avaient grossi. 2 ou 3 clans, peut-être plus, devaient avancer ensemble. Pour un chasseur, une proie formidable. Lentement, mais sûrement, Perrine gagnait désormais du terrain sur les ravisseurs, et cela seul comptait. Considérant leur nombre et les conditions climatiques, les Shaido couvraient plus de terrain qu'ils l'auraient cru possible. Cela dit, ils ne semblaient pas se soucier qu'on les suive ou non, sans doute parce qu'ils pensaient que personne ne s'y risquerait. En quelques occasions, ils avaient campé plusieurs jours au même endroit. Alors qu'ils les traquaient, la colère de Perrine prenait de plus en plus toutes les caractéristiques d'une arme. Dans leur sillage, comme un nuage de sauterelles humaines, les Shaido laissaient des villages, des petites villes et des domaines dévastés. De fait, ils détruisaient presque tout, s'appropriant le reste, y compris le bétail, les hommes et les femmes. Très souvent, quand Perrine arrivait, il trouvait des maisons vides, car les survivants étaient partis en quête d'un peu de nourriture, histoire de résister jusqu'au printemps. Perrine avait traversé le fleuve Eldar, à un endroit où un village, désormais rasé, se dressait sur chaque rive. Les achamans avaient dû ouvrir un portail, car il ne restait que des cendres du petit bac naguère utilisé par des colporteurs et des fermiers locaux, pas par des marchands, à cause de sa taille. Sur les quais de pierre, les 3 chiens faméliques qui erraient tristement détalèrent sans demander leurs restes dès qu'ils aperçurent des humains. Comment les Shaido avaient-ils traversé? Incapable de répondre à cette question, Perrine, devant tant de désolation, avait senti que sa colère prenait la forme d'un marteau. La veille, ses compagnons et lui étaient passés par un hameau où une poignée d'habitants encore sous le choc, les joues crasseuses de suie, avaient regardé, hébétés, les centaines de lanciers et d'archers qui chevauchaient derrière l'aigle de Manéthéren, les étoiles d'argent du Géaldan, le faucon doré de Mayenne et l'étendard à tête de loup. Ensuite était passée une longue file de charrettes à grandes roues et de montures de rechange. À la vue de Gaul et des autres aïels, les malheureux villageois, arrachés à leur paralysie, s'étaient mis à courir comme des fous en direction de la forêt. En intercepter quelques-uns pour leur poser des questions avait tenu de l'exploit. Plutôt que de se laisser approcher par un aïel, ces gens étaient prêts à fuir jusqu'à ce que mort s'en suive. Britann, le nom du hameau, comptait une dizaine de familles. Impitoyables, les Shaido avaient enlevé 9 jeunes gens, filles et garçons mêlés, et réquisitionné tous les animaux. Une mise à sac qui remontait à 2 jours. Un marteau était un outil forgé dans un but précis, pour viser une cible définie. S'il se montrait imprudent, Perrine risquait de perdre Fail. Inversement, trop de prudence donnerait le même résultat. À l'aube, la veille, il avait ordonné aux éclaireurs de s'aventurer plus loin que d'habitude et de ne pas revenir avant le prochain lever de soleil, sauf s'ils avaient repéré les Shaido avant. L'aube approchait. Bientôt, Elias, Gaul et les autres seraient de retour. Comme les gars de Deux Rivières, les promises de la lance étaient capables de suivre une ombre sur de l'eau. Et si les Shaido avançaient vite, jamais ils ne distanceraient les éclaireurs, car eux n'étaient pas retardés par des chariots, des enfants et des prisonniers. Cette fois, ces pisteurs pourraient dire exactement où étaient les ravisseurs. Ils réussiraient. Perrine le sentait dans ses os, une certitude qui circulait aussi dans ses veines. Bientôt, il retrouverait Fail et la libérerait. C'était plus important que tout, y compris sa propre existence, à condition qu'il survive au moins jusque-là. Devenu un marteau, il était prêt, s'il le fallait, à écrabouiller tous les Shaido. Écartant les couvertures, il remit ses gants, saisit sa hache au tranchant surmonté par une pique, roula sur lui-même pour sortir de sous la charrette et se releva sur un tapis de neige givré. Dans ce qui était jadis les champs de Britanne, des chariots stationnaient à perte de vue. L'arrivée d'une horde d'étrangers en armes, avec leurs étendards inconnus, avait porté le coup de grâce aux survivants du hameau. Dès que Perrine les avait relâchés, leurs maigres possessions sur le dos ou dans des traîneaux, ils étaient allés rejoindre les autres dans la forêt. Comme si le jeune homme était lui-même un Shaido, ils avaient couru à toutes jambes et sans se retourner. Alors qu'il glissait sa hache dans la boucle de sa ceinture, Perrine vit du coin de l'œil un mouvement dans les ombres, près d'une charrette. Très vite se découpa la silhouette d'un homme vêtu d'une veste qui paraissait noire dans l'obscurité. Perrine ne fut pas surpris. Malgré l'odeur puissante des chevaux attachés non loin de là, sans même mentionner la puanteur du crottin, en se réveillant, il avait senti l'odeur d'Aram. Un compagnon qui était toujours là quand il ouvrait les yeux, attendant ses ordres. À la lumière déclinante de la lune, Perrine parvint à distinguer les traits du Zingaro, pas très clairement cependant, et à apercevoir le pommeau et la poignée de l'épée qui dépassaient de son dos.
« De l'ancien Zingaro !»
rectifia le mari de Fail. Même s'il portait une tenue criarde typique des gens de la route, Aram n'était plus des leurs, et ne le redeviendrait jamais. Sur son visage s'affichait une dureté que les ombres de la lune ne parvenaient pas à cacher. En permanence prêt à dégainer son arme, il ne décolérait pas depuis l'enlèvement de Fail, et la rage, désormais, faisait partie intégrante de son odeur. Avec la disparition de Fail, beaucoup de choses avaient changé. Et Perrine, aujourd'hui, comprenait la colère. Jusqu'au rapt de sa femme, ce sentiment lui était resté étranger. Mais ce temps-là n'existait plus.
« Seigneur Perrine, ils veulent te voir, »
dit Aram en désignant 2 silhouettes plus loin dans les rangées de chariots.
« Je leur ai dit de te laisser dormir, mais... »
Un défaut majeur d'Aram, surprotéger son chef, même quand on ne lui avait rien demandé. Humant l'air, Perrine sépara l'odeur des 2 inconnus de celle des chevaux.
« Je vais leur parler. Aram, ordonne qu'on prépare trotteur pour moi. »
Chaque matin, Perrine s'efforçait d'être en selle avant que tout le monde s'éveille. En partie parce qu'il se sentait incapable de rester à rien faire, être inoccupé ne l'aiderait pas à rattraper les Shaido, mais surtout pour fuir la compagnie des uns et des autres, si c'était possible. N'étaient ses piètres talents d'éclaireur, il aurait accompagné les hommes et les femmes qui se chargeaient de retrouver Fail à sa place.
« Très bien, Seigneur. »
Tandis qu'il s'éloignait, l'odeur d'Aram sembla se déchirer, ou quelque chose dans ce genre. Mais Perrine n'y accorda pas d'attention. Pour que Seban Balwer et Céland Daringil s'extirpent de leur couverture avant le lever du jour, il fallait que ce soit important. Le visage noyé dans les ombres de sa capuche, Balwer avait l'air étique, même vêtu d'un lourd manteau. En redressant les épaules, il serait resté plus petit d'une main que la Kerienienne, qui n'avait pourtant rien d'une géante. Les bras autour du torse, il sautait d'un pied sur l'autre pour éviter que le froid montant du sol lui gèle la plante des pieds. En tenue d'homme, veste et pantalon sombres, Selande faisait de son mieux pour ignorer le froid malgré le nuage de buée qui se formait devant sa bouche à chaque expiration. Elle frissonnait, mais parvenait pourtant à parader, un pan de son manteau écarté révélant sa main gantée, posée sur le pommeau de son épée. Sa capuche abaissée révélait des cheveux coupés courts, à l'exception de la queue de cheval sur sa nuque tenue par un ruban noir. Selande était la figure de proue des crétins qui tentaient d'imiter les aïels, des aïels portant l'épée par la lumière. Son odeur douce et épaisse rappelait celle de la confiture. La jeune sotte était inquiète. Balwer, lui, diffusait une forte senteur d'intensité. Mais c'était toujours le cas, et il n'y avait rien de passionné là-dedans. L'effet de la concentration, rien de plus. Cessant de sautiller, il esquissa une courbette.
« Seigneur, Dame Selande a des nouvelles que vous devez entendre de sa bouche, »
dit-il d'une voix sèche et précise, parfaitement à son image. La tête sur le billot, il aurait pris le même ton.
« Madame, si vous voulez bien. »
Secrétaire de Feil et Perrine, Balwer, un petit homme en apparence effacé, s'adressait à une noble dame. Pourtant, c'était lui le dominant. Selande foudroya Balwer du regard et fit très légèrement coulisser sa lame dans son fourreau. Alarmée, Perrine se prépara à lui saisir le poignet au vol. En principe, elle n'était pas assez crétine pour frapper un allié. Mais il ne lui faisait pas assez confiance, comme à ses ridicules amis, pour parier sa chemise là-dessus. Le petit secrétaire se contenta de la regarder, tête inclinée sur un côté. Dans son odeur, Perrine reconnut de l'agacement, pas de l'inquiétude. Hautaine, Selande se tourna vers Perrine.
« Je te vois, Seigneur Perrine, yeux jaunes, »
dit-elle avec son accent kyrienien à couper au couteau. Consciente que sa mascarade énervait Perrine, elle cessa de jouer à la yelle.
Cette nuit, j'ai appris trois choses. La première, sans grande importance, c'est que Massema, selon Aviar, a envoyé un autre cavalier en Amadicia hier. Nérion a essayé de le suivre, mais il l'a perdu.
Dis-lui de ne surtout suivre personne,
lâcha Perrine.
Même consigne pour Aviar. Tes amis devraient le savoir, bon sang. Ils sont là-bas pour observer, écouter et nous transmettre leurs rapports. Rien de plus, c'est compris?
Selande acquiesça, de la peur passant dans son odeur. Elle craignait qu'il soit en colère contre elle, comprit Perrine. Un homme aux yeux jaunes mettait les gens mal à l'aise. Du coup, il éloigna sa main droite de sa hache et la fit disparaître dans son dos, avec la gauche. Aviar et Nérion, l'un théarien et l'autre kérienien, appartenaient à la bande des imbéciles qui se prenaient pour des aïels et vénéraient Feil. Sa femme les utilisait comme espions. Une démarche qui continuait à énerver Perrine, même si elle affirmait que le renseignement était une affaire d'épouse. Quand sa moitié semblait plaisanter, un homme avait intérêt à bien ouvrir les oreilles, parce que ce n'était pas souvent vrai. Si la notion d'espionnage le troublait, puisque Feil se servait de ces jeunes gens, pourquoi s'en serait-il privé en cas de nécessité? Mais ça se limitait aux deux types, Aviar et Nérion. Si trop de jeunes idiots quittaient le camp pour se rallier à lui, Massema aurait des soupçons, même s'il pensait que tout le monde, à part les suppôts des ténèbres, avait vocation à le rejoindre.
« Ne l'appelle pas Massema, »
ajouta Perrine.
« Même ici. »
Depuis peu, l'illuminé prétendait que Massema d'Agar était mort, puis avait émergé de sa tombe pour devenir le prophète du dragon réincarné. Fidèle à sa folie, il s'indignait dès que quelqu'un osait mentionner son ancienne identité.
« Si tu ne tiens pas ta langue au mauvais endroit, tu pourras te féliciter que ces cinglés d'adeptes se contentent de te fouetter quand ils te mettront la main dessus. »
Selande acquiesça, cette fois sans diffuser de peur. Décidément, les crétins de Feil avaient du mal à distinguer les vrais dangers des faux.
« L'aube approche, » souffla Balwer, de plus en plus gelé. « Bientôt, tout le monde sera réveillé, et certains sujets ne sont pas pour toutes les oreilles. Si la noble dame veut bien continuer... »
Une fois de plus, ce n'était pas une suggestion. Depuis le début, Selande et sa bande avaient surtout semé le trouble. Perrine pouvait en témoigner, et Balouère, pour une raison inconnue, s'acharnait à leur rabattre le caquet. Pour une fois, elle sursauta, puis murmura des excuses. L'obscurité se dissipait, s'avisa Perrine, en tout cas pour ses yeux spéciaux. Alors que le ciel restait noir et constellé d'étoiles, il voyait presque la couleur des six rayures qui zébraient la veste de Célandé. Au minimum, il les distinguait les unes des autres. Soudain conscient qu'il avait dormi plus longtemps que d'habitude, il grogna entre ses dents. Même épuisé, il n'avait pas le droit de s'autoriser une faiblesse. Pour l'heure, il fallait qu'il écoute le rapport de Célandé. Comme elle l'avait précisé, la partie concernant Masséma n'était pas essentielle, ce qui ne l'empêcha pas de tourner la tête vers l'endroit où Aram et Trotteur auraient déjà dû l'attendre. Personne en vue pour l'instant.
Le deuxième point, Seigneur, c'est qu'Aviar a vu dans le camp du prophète un grand nombre de tonneaux de poissons fumés et de bœuf salé, presque tous portant les marques de l'Altara.
Toujours selon notre espion, il y a des Altariens parmi les fidèles de Ma...
du prophète. Plusieurs artisans et quelques marchands ou fonctionnaires municipaux. Des hommes et des femmes de haut niveau, quoi qu'il en soit, et qui ont la tête sur les épaules. D'ailleurs, certains semblent déjà douter de leur choix. Quelques questions judicieuses nous permettraient de savoir d'où viennent le poisson et le bœuf, et qui sait, de recruter plus d'espions.
« Je sais d'où viennent le poisson et le bœuf, » fit Perrine, agacée. « Et toi aussi ?»
Dans son dos, il serra les poings. En se déplaçant vite, il avait espéré empêcher Masséma et ses hommes de s'adonner au pillage. Fondamentalement, c'étaient des bandits aussi nocifs que les Shaido, sinon plus. Proposant aux gens de se rallier au dragon réincarné, il massacrait ceux qui refusaient ou se permettaient simplement d'hésiter. Les autres, qu'ils se joignent ou non à leur horde, devaient donner jusqu'à leur chemise pour la cause. Quant aux morts, tous des suppôts des ténèbres, bien sûr, on confisquait sans vergogne leurs biens. Selon les lois de Masséma, il fallait couper une main aux voleurs. Mais à l'en croire, ces fidèles, qui auraient tous dû être manchots, ne s'appropriaient rien qui ne leur revint pas de droit. Même chose pour le meurtre et d'autres crimes punis par la pendaison. Quand il tuait, ses sbires, d'après lui, ne pouvaient pas faire autrement. En réalité, le pillage et l'assassinat étaient à leurs yeux des activités de plein air parfaites pour s'ouvrir l'appétit.
« Dis à tes espions de rester loin des Altariens, » ordonna Perrine. « Parmi les partisans du prophète, on trouve de tout. Mais même les plus réticents finissent par sombrer dans le fanatisme. Quand ils en sont là, ils n'hésitent plus à éventrer quelqu'un qui pose des questions embarrassantes. Je veux savoir ce que fait Masséma et ce qu'il mijote. Aviar et Nérion devront s'en tenir là. »
Masséma avait un plan. Ça ne faisait pas de doute, même s'il le cachait derrière un écran de fumée. À l'en croire, recourir au pouvoir de l'unique était un blasphème, sauf pour Rand. Dans le même ordre d'idées, il affirmait vouloir plus que tout au monde rejoindre le dragon réincarné à l'est. Du pipeau. Comme toujours quand il pensait à Rand, des couleurs tourbillonnèrent dans la tête de Perrine. Plus vive que d'habitude cette fois, mais la colère ne tarda pas à les faire disparaître. Blasphème ou non, Masséma avait accepté de voyager, ce qui impliquait de canaliser le pouvoir. Ou plutôt que des hommes le canalisent, un outrage encore pire. Quoi que dise le prophète, il avait agi ainsi afin de rester plus longtemps à l'ouest, et pas pour aider à secourir Fail. D'un naturel confiant, Perrine ne changeait pas aisément d'avis sur les gens. Sauf quand l'odeur d'une personne, Masséma par exemple, lui apprenait qu'il côtoyait un fou plus dangereux qu'un animal enragé, et encore moins digne de confiance. Plus d'une fois, Perrine avait réfléchi à un moyen de saboter les plans du dément afin de mettre un terme aux boucheries et aux mises à sac. Mais Masséma avait avec lui entre 10 et 12 000 hommes, peut-être plus, car il restait muet sur le sujet, toute évaluation rendue impossible par la configuration anarchique de son camp, alors que Perrine pouvait compter sur à peine un quart de ce nombre. En intégrant les conducteurs de chariots, les palefreniers et les civils qui, en cas de combat, seraient plus un boulet qu'un soutien. Cela dit, avec 3 Aes Sedai, 2 Achamans et 6 matriarches, il avait une chance de neutraliser Masséma. Toutes les Aiel et 2 Aes Sedai étaient prêtes à l'aider. Plus que prêtes en réalité, car elles rêvaient de voir Masséma raide mort. Hélas, disperser l'armée du fou furieux créerait des centaines de bandes féroces qui se répandraient en Altara et au-delà, continuant à piller et à tuer pour leur propre compte, plus au nom du dragon réincarné.
« Éparpiller les Shaido aura le même effet, »
pensa Perrine. Une idée qu'il s'empressa de chasser de son esprit. Pour s'occuper de Masséma, il y aurait fallu un temps dont il ne disposait pas. Ça attendrait jusqu'à ce que Fail soit sauvé, les Shaido écrabouillés par un marteau impitoyable.
Et la troisième information, Célandais ?
Demanda Perrine. À sa grande surprise, de l'inquiétude, plus forte qu'avant, émana de la jeune femme.
« Aviar a vu quelqu'un, seigneur. Pour me le dire, il a attendu un peu trop. Mais j'ai fait en sorte que ça n'arrive plus. »
Célandé inspira à fond, comme si elle avait du mal à se jeter à l'eau.
« Ma souris Sedai est allée voir Massema, enfin, le prophète. C'est vrai, seigneur, tu dois me croire. Aviar l'a vu plusieurs fois. Elle entre dans le camp bien caché sous sa capuche, et elle en sort ainsi. Mais il a pu distinguer deux fois son visage. À chaque occasion, un homme l'accompagnait, et parfois aussi une autre femme. Aviar n'est pas totalement sûr à cause de la capuche, mais l'homme pourrait être Rover, le champion de Masuri. Sur l'autre femme, Aviar est catégorique. Il s'agit d'Anura Sedai. »
Ses yeux brillants rivés sur Perrine, Célandé se tut. Par la lumière, la réaction du jeune homme l'inquiétait autant que la signification de ses visites furtives. Dans son dos, Perrine ouvrit les poings. Massema détestait les Aes Sedai au moins autant que les suppôts. En fait, les sœurs, à ses yeux, étaient des alliés du ténébreux. Pourquoi en aurait-il reçu deux? Et que serait-elle allée faire dans son camp? L'opinion d'Anura sur le prophète, enrobée de mystères et de subtiles contradictions, la spécialité des Aes Sedai, aurait pu être qualifiée d'ambiguë. Pas celle de Masuri, qui n'y allait pas par quatre chemins. Ce type devait être abattu comme un chien enragé.
Ordonne à Aviar et à Nérion de ne pas lâcher les sœurs du regard et d'espionner une de leurs rencontres avec le prophète, s'ils sont assez futés pour ça.
Aviar avait-il pu se tromper? Peu probable, ça. Dans le camp de Massema, il y avait relativement peu de femmes, et le Théarien n'était pas assez idiot pour prendre une harpie crasseuse aux yeux de folle pour une Aes Sedai, en particulier Masuri. En règle générale, les femmes qui se ralliaient au prophète auraient eu leur place dans une caravane de Zingari.
« Insiste sur les risques, et incite-les à la prudence. Mieux vaut rater une occasion qu'être démasqué. Pendus haut et court, ils ne seront plus utiles à personne. »
Conscient de sa rudesse, Perrine tenta d'adoucir un peu son propos. Mais il avait du mal depuis le rapt de Feil.
Du bon travail, Célandé.
Au moins, il avait réussi à ne pas aboyer ses mots.
Si elle savait, Feil serait fier de vous trois.
Un sourire sur les lèvres, Célandé se redressa un peu plus, ou en donna l'impression. Dans son odeur, la fierté du devoir accompli chassa presque tout le reste.
Merci, seigneur. Oui, merci.
On aurait juré que la fausse Aiel venait de recevoir une médaille. En un sens, c'était le cas. Feil aurait-elle été ravie que Perrine se serve de ses espions, voire simplement qu'ils connaissent leur existence? Rien n'était moins sûr. Naguère, l'idée qu'elle soit mécontente l'aurait dérangée. Mais c'était avant qu'il découvre ses yeux et ses oreilles, ou cette petite histoire au sujet de la couronne brisée qu'Elias lui avait révélée par inadvertance. Les épouses, disait-on volontiers, gardaient jalousement leurs secrets, mais il y avait des limites. Après avoir resserré d'une main les pans de son manteau, Balwer tout sauta discrètement derrière son autre paume.
« Voilà qui est bien dit, seigneur. Très bien dit. Madame, vous tiendrez, j'en suis sûr, à transmettre au plus vite les consignes du seigneur Perrine. Vous savez à quel point tout malentendu serait fâcheux. »
Célandé acquiesça, sans quitter le jeune homme des yeux. La voyant ouvrir la bouche, il paria qu'elle allait annoncer quelques platitudes faussement à Yel sur l'eau et sur l'ombre. Misère de misère. En cette saison, l'eau ne manquait pas, même si on la trouvait sous sa forme solide, et qui, y compris à midi, aurait eu besoin d'ombre par un temps pareil? Célandé hésita, sans doute le temps de se raviser, puis souffla.
« Que la grâce t'accorde ses faveurs, seigneur. Et si je puis me montrer si impertinente, sache que la grâce, en lui donnant un tel époux, a comblé Dame Feil de bienfaits. »
Perrine répondit d'un hochement de tête. Son amertume, il la garda pour lui. La grâce avait une drôle de conception des bienfaits. Un mari incapable de trouver sa femme après 22 jours n'était sûrement pas un cadeau. Selon les promises, Feil, devenue une Gaishine, ne serait en principe pas maltraitée. Sauf que les Shaido, elles avaient dû le reconnaître, s'étaient déjà détournées d'une bonne centaine de leurs coutumes. De plus, pour Perrine, un rapt était en soi une forme de maltraitance. Un bienfait, lui.
Cette dame s'en sortira très bien, seigneur,
dit Balwer en regardant Célandé s'éloigner entre les charrettes. Un revirement surprenant. Le petit secrétaire, jugeant Célandé et ses amis trop impulsifs et peu fiables, avait tenté de dissuader son maître de les utiliser.
comme tous les nobles kyrieniens et théariens jusqu'à un certain point. Elle a l'instinct requis, surtout quand... »
Balouer s'interrompit et dévisagea son maître. D'un autre homme, Perrine aurait cru qu'il en avait dit plus long qu'il l'aurait voulu. Mais ce n'était pas le genre de Balouer. D'ailleurs, son odeur, très stable, ne plaidait pas en faveur d'une bévue.
« Puis-je émettre un ou deux commentaires sur son rapport, Seigneur ?»
Des crissements sur la neige annoncèrent l'arrivée d'Aram avec Trotteur et son propre hongre gris. Les deux chevaux essayant toujours de se mordre, l'ancien Zingaro les gardait à distance l'un de l'autre, non sans difficulté cependant. Balouer soupira à pierre fendre.
« Maître Balouer, » fit Perrine, « Aram peut entendre tout ce que tu veux dire. »
Le petit homme acquiesça, mais soupira encore. Dans le camp, tout le monde savait qu'il avait le génie de synthétiser les rumeurs, les commentaires entendus au hasard et les actes des gens pour reconstituer ce qui s'était vraiment passé ou qui, au moins, aurait pu se produire. S'il reconnaissait que ça entrait dans les attributions d'un secrétaire, Balouer, pour une raison mystérieuse, affirmait n'avoir jamais rien fait de pareil. Une fausse modestie sans conséquence que Perrine lui pardonnait volontiers.
« Aram, »
dit le jeune seigneur en prenant les rênes de Trotteur à son ange gardien.
« Marche derrière nous pour le moment. Il faut que je parle en privé avec Maître Balouer. »
Cette fois, le soupir du secrétaire fut si discret que Perrine faillit ne pas l'entendre. Sans un mot, Aram se laissa distancer de quelques pas. De nouveau, son odeur se troubla, avec comme un relent d'acidité. Sans lui accorder beaucoup d'attention, Perrine, ce coup-ci, identifia la senteur. À part quand c'était Fail, Aram détestait que quelqu'un monopolise l'attention de son idole. Incapable de mettre un terme à ce comportement, Perrine avait fini par s'y habituer, comme il s'était accoutumé à l'éternelle méfiance de Balouer, qui se retourna une bonne dizaine de fois pour vérifier qu'Aram était assez loin. Au fond, les soupçons de l'un compensaient la possessivité de l'autre, et ça n'était pas plus mal. Changer des hommes qui se refusaient à toute évolution étant impossible, le principe de réalité s'imposait. Les piquets des chevaux et les véhicules de l'intendance étaient regroupés au milieu du camp, histoire que d'éventuels voleurs aient du mal à y accéder. Même si le ciel, pour des yeux normaux, restait obscur, les conducteurs et les palefreniers, qui dormaient près des charrettes ou des équidés, étaient déjà en train de plier leurs couvertures. Au cas où ils pourraient encore servir, si la colonne restait une nuit de plus, des hommes s'occupaient des abris confectionnés avec des branches de pin et d'arbres plus petits. D'autres allumaient des feux afin de faire chauffer de l'eau. En matière de nourriture, on disposait surtout de bouillies de flocons d'avoine et de haricots secs, mais la chasse et la pose de pièges, par bonheur, amélioraient l'ordinaire. Hélas, le petit gibier ne suffisait pas, avec tant de bouches à nourrir. Quant à acheter de la viande, l'occasion ne s'était plus présentée depuis la traversée du fleuve Eldar. Sur le chemin de Perrine, des salutations et des bénédictions s'élevèrent d'un peu partout.
« Un grand bonjour, Seigneur !»«
Que la lumière soit avec toi, Seigneur !»
Impressionnés par la détermination de leur chef et la vivacité de sa démarche, les femmes et les hommes qui s'occupaient des abris cessèrent de les entretenir et entreprirent même de les démonter. Aujourd'hui, on ne resterait pas sur place, c'était sûr. Cela dit, ça n'avait rien d'exceptionnel. Depuis qu'il s'était avisé de son erreur, au début de la traque, Perrine n'avait plus passé deux nuits au même endroit. Sans ralentir, il répondit d'un geste à toutes ses amabilités. Autour des chevaux et des véhicules, le reste du camp formait un cercle serré. Divisé en quatre groupes, les gars de Deux Rivières étaient séparés par des lanciers du Géaldan et des gardes ailés de Mayenne. Ainsi, d'où que viennent d'éventuels agresseurs, ils seraient opposés aux archers de Perrine et à des cavaliers entraînés.
Une saine précaution contre une attaque surprise des Chaïdo?
Sûrement pas. En revanche, contre une trahison de Massema. Jusque-là, le prophète se montrait très coopératif. Mais en sus des rumeurs de mise à sac, 9 lanciers et 8 gardes ailés avaient disparu en quelques jours. Et personne, dans le camp, ne les accusait de désertion. Avant ça, le jour de l'enlèvement de Fail, 20 hommes de Mayenne étaient tombés lors d'une embuscade. Là encore, de la vie générale, c'était l'œuvre des fidèles de Massema. Une paix fragile régnait entre les alliés. Pour parier une pièce de cuivre qu'elle durerait, il fallait avoir envie de perdre son argent. Massema affirmait que rien ne menaçait cette entente, mais le comportement de ses partisans prouvait le contraire. Or, il n'aurait jamais agi ainsi sans son consentement, au moins tacite, mais il y avait sûrement plus que ça. Réaliste, Perrine espérait que cet équilibre précaire tiendrait jusqu'à ce qu'il ait libéré Fail.
À cette fin, il faisait en sorte que son camp soit un trop gros morceau à avaler, même pour un illuminé. Quant au cercle serré, les Aiel avaient insisté pour recevoir leur part de cet étrange gâteau. Bien qu'ils fussent moins d'une cinquantaine en comptant les Gaïshain des matriarches, ils insistaient pour participer au dispositif de défense. Perrine s'immobilisa pour observer leurs tentes sombres et basses. Dans le camp, les seuls autres abris de toile étaient ceux de Berelaine et de ses deux servantes, à proximité des rares maisons de Britanne. Infestées de poux et de puces, ces demeures se révélaient inhabitables, même pour des vétérans en quête d'un peu de chaleur. Quant aux étables, encore plus insalubres, elles étaient ouvertes à tous les vents. Les Promises et Gaul, le seul mâle présent, si on exceptait les Gaïshain, étaient en exploration, avec les autres éclaireurs. Du coup, un grand silence régnait parmi les tentes. Voyant de la fumée sortir des évents de l'une d'elles, Perrine devina que les Gaïshain préparaient le petit déjeuner des matriarches, s'ils n'étaient pas déjà en train de le servir. Conseillère de Berelaine, Anoura partageait en principe sa tente. Masouri et Séonide, elles, devaient être avec les matriarches, peut-être pour donner un coup de main aux Gaïshain. Même si tout le monde dans le camp le savait, les sœurs tentaient toujours de cacher que les matriarches les considéraient comme des apprentis. Mais comment être dupe quand on voyait une Aes Sedai porter de l'eau ou du bois, ou qu'on entendait ses cris lorsqu'elle recevait le fouet? Bien que Masouri et Séonide aient juré fidélité à Rand, de nouveau, les couleurs tourbillonnèrent dans la tête de Perrine, mais sa rage les désintégra, et Dara et les autres matriarches étaient là pour garder un œil sur elle. Les deux Aes Sedai étaient les seuls à savoir jusqu'à quel point leur serment les contraignait. Idem en ce qui concernait leur marge de manœuvre, si elles en avaient une. Quoi qu'il en soit, elles n'avaient pas le droit de bouger un cil sans autorisation d'une matriarche. À l'instar de Masouri, Séonide avait déclaré que Massema devait être abattu comme un chien enragé, et les matriarches partageaient ce point de vue, ou faisaient semblant. Contrairement aux sœurs, liées par les trois serments, rien ne les obligeait à dire la vérité. Cela posé, ce serment-là des Aes Sedai était pour l'essentiel théorique. D'ailleurs, Perrine crut se souvenir que Masouri, selon une matriarche, estimait qu'un chien enragé pouvait aussi être mis à la laisse. Pas autorisé à broncher sans l'aval d'une matriarche? Tout ça, c'était comme les pièces d'un casse-tête de forgeron, avec leurs arêtes bien aiguisées. Perrine devait résoudre l'énigme, mais à la moindre erreur, il risquait de s'entailler la chair jusqu'à l'os. Du coin de l'œil, il vit que Balwer le dévisageait, pensif. Le regard d'un oiseau, ni affamé, ni craintif, mais intrigué par quelque chose de peu familier. Trotteur toujours tenu par la bride, Perrine accéléra le pas, forçant le secrétaire à avancer par petits bonds pour ne pas être distancé. Les gars de Deux Rivières étaient en partie cantonnés juste à côté des Aiel, face au nord-est. Un moment, Perrine envisagea de pousser un peu vers le nord, où campaient des lanciers de Gealdan, ou vers le sud, pour inspecter le groupe de gardes-ailés le plus proche. Mais il y renonça et se força à avancer parmi ses amis et ses voisins. Tous réveillés et emmitouflés dans leurs manteaux, ils jetaient au feu les vestiges de leurs abris ou découpaient les restes de lapins de la veille, pour les ajouter à la bouillie de flocons d'avoine. Dès que ces hommes virent Perrine, les conversations moururent et les têtes, avec lassitude, se tournèrent vers lui. Un instant, les pierres à poncer cessèrent d'aiguiser l'acier, puis leur chant recommença. S'ils préféraient l'arc, tous ces gaillards portaient à la ceinture un coutelas ou une épée courte. Prudents, ils avaient aussi récupéré en chemin les piques, les halbardes et les lances, certaines avec des fers très étranges, que les Shaïdos n'avaient pas jugé bon d'emporter lors de leur mise à sac. Habitués aux lances, ces hommes familiers des combats au bâton, lors des festivités, s'étaient faits sans difficulté aux piques, une fois maîtrisé le déséquilibre provoqué par la présence de fer à un bout de la hampe. Sur le visage de ses compagnons, Perrine lut les tourments de la faim, de la fatigue et du découragement. Quand l'un d'eux lança un Périgne jaune sans conviction, personne ne lui fit écho. Un mois plus tôt, Perrine en aurait été ravi, mais depuis le rapt de Fail, bien des choses avaient changé. Désormais, le silence de ces braves pesait des tonnes. Le jeune Kenli Maerin, les joues pâles là où il avait mal rasé son embryon de barbe, évita de croiser le regard de Perrine. Et Jory Kongar, voleur maladif dès qu'il repérait un petit objet de valeur, et ivrogne presque aussi compulsif, cracha sur le sol, au moment où le jeune seigneur passait. Pour le punir, Ban Crow le frappa très fort sur l'épaule. Mais lui non plus ne regarda pas le mari de Fail. En triturant son épaisse moustache, ridicule sous son grand nez, Daniel Lewin se leva péniblement.
« Des ordres, seigneur Perrin ?»
Inquiétant de maigreur, Daniel parut soulagé quand son chef secoua la tête. Très vite rassis, il se concentra sur un chaudron en train de chauffer, comme s'il était pressé d'avaler la pesante bouillie. Dans son état, il l'était peut-être, car les occasions de se remplir le ventre se faisaient rares ces derniers temps. Derrière Perrin, Aram grogna de dégoût. Dans le lot, il n'y avait pas que des gars de Deux-Rivières, mais les autres allaient tout aussi mal. Montagne de muscles au visage couvert de cicatrices, Lam Gwyn Dorn salua Perrin, en tirant sur les mèches de son front, puis en inclinant la tête. Malgré son allure de bagarreur de taverne, Lam Gwyn était désormais le serviteur personnel de Perrin, les rares fois où il lui en fallait un. En homme avisé, il voulait sans doute ménager son employeur. Basil Gill, l'ancien aubergiste devenu leur chambayan par la grâce de Fail, se concentra sur la couverture qu'il pliait, sans jamais relever son crâne chauve pour regarder Perrin. La gouvernante de Fail, Lini Eltring, son chignon blanc ajoutant à l'austérité naturelle d'un visage étroit, pinça les lèvres, cessa de remuer le contenu d'un chaudron et brandit sa longue louche en bois, comme si elle voulait embrocher Perrin. Ses yeux noirs brillant sur son pâle visage de Kerienienne, Brehan Taborwin tapa sur le bras de Lam Gwyn, puis le foudroya du regard. Compagne du colosse, ou peut-être même épouse, elle venait en deuxième position dans le trio de servantes de Fail. Ses gens traqueraient les chailles d'eau jusqu'à ce que mort s'en suive, et s'il retrouvait un jour Fail, nul doute qu'il lui sauterait au cou. Pourtant, seule Lam Gwyn, sans zèle excessif, avait daigné saluer son mari. Concentrés uniquement sur eux-mêmes, les Ashaman n'avaient jamais témoigné une once d'hostilité envers Perrin. Du coup, il aurait pu espérer un accueil moins glacial de la part de Djurgradi. Hélas, malgré le vacarme ambiant, glissant sans cesse sur la neige, les gens juraient d'abondance, Grady dormait encore à poings fermés, sous un appentis improvisé. Au milieu de ses amis, voisins et serviteurs, Perrin se sentit seul comme jamais. Même s'il clamait sa loyauté à tous les vents, un homme finissait toujours par atteindre ses limites et renoncer. Mais là, tout ce qui justifiait la vie de Perrin, lui conférant de la valeur, l'attendait quelque part au nord-est. Dès que Fail serait de nouveau à ses côtés, tout rentrerait dans l'ordre. Sur 10 pieds de large, une palissade de pics acérés entourait le camp. Le long du secteur des lanciers du Géaldan, ces obstacles étaient disposés de façon à laisser circuler des cavaliers. Cela dit, Balwer et Aram durent se placer derrière Perrin pour négocier les 3 passages. La lisière de la forêt était à moins de 100 pas de là, la portée idéale pour les archers du territoire natal de Perrin, une haie espacée de grands arbres semblant monter la garde sous la neige. S'il reconnaissait des pins, des ormes et des bouleaux, presque tous géants, le jeune seigneur aurait été en peine d'identifier certains autres vénérables. Mais il savait que des géants pareils tuaient presque tout ce qui poussait autour de leurs racines, laissant entre eux de larges intervalles envahis par des ombres menaçantes. Une antique forêt, du genre qui pouvait avaler des armées entières sans jamais recracher leurs ossements. Lorsqu'ils se furent extraits de la palissade, Balwer décida qu'il ne serait jamais aussi seul avec Perrin qu'en cet instant.
« Seigneur, les cavaliers envoyés par Machema... »
Resserrant les pans de son manteau, le petit homme jeta un regard soupçonneux à Aram, qui ne broncha pas.
« Je sais, » fit Perrin. « Tu penses qu'ils contacteront les Capes Blanches ?»
Impatient de s'éloigner de ses amis, il posa sur le pommeau de sa selle la main qui tenait la bride de trotteur, mais il ne mit pas le pied à l'étrier. Impatient, lui aussi, le cheval piaffa.
« Dans cet ordre d'idées, Masséma envoie peut-être des messages au Cianchanien. »
« Je ne vous le fais pas dire, seigneur. C'est hautement possible, inutile de le nier. Mais puis-je rappeler que sa position sur les Aes Sedai est plus proche de celle des Fils de la Lumière? Identique, pourrait-on même dire. Le prophète aimerait voir le cadavre de toutes les sœurs, si c'était possible. Les Séanchaniens sont plus pragmatiques, dirons-nous. Donc, moins en harmonie avec Masséma.
Autant que tu détestes les fils, maître Balwer, ils ne sont pas coupables de tous les maux du monde. Quant à Masséma, il a déjà traité avec les Séanchaniens.
Si vous le dites, seigneur.
Balwer restait impassible, mais il empestait le doute. Dans l'incapacité de prouver l'existence de contact entre Masséma et les Séanchaniens, Perrine pouvait encore moins révéler comment il savait que ses pourparlers étaient réels, car ça aggraverait ses difficultés actuelles. Très attaché aux preuves, justement, Balwer était mal à l'aise face à ce flou artistique.
Quant aux Aes Sedai et aux matriarches, seigneur, les sœurs pensent toujours en savoir plus long que n'importe qui, à part d'autres sœurs éventuellement. Et les Aiel me semblent taillés dans le même bois.
Perrine exhala quelques volutes blanches dans l'air.
Dis-moi quelque chose que j'ignore, maître Balwer. Par exemple, pourquoi Masuri rencontre Masema? Et pourquoi les matriarches la laissent faire? Je parie trotteur contre un clou de fer à cheval qu'elle ne s'y risquerait pas sans leur permission.
Avec Anoura, c'était aussi un mystère, mais elle pouvait agir pour son propre compte. Ou pour celui de Berelaine? Très peu probable, ça. Se retournant, Balwer sonda le camp, au-delà de la palissade, en direction des tentes des Aiel, comme s'il espérait voir à travers la toile.
Les possibilités sont nombreuses, seigneur. Pour certaines personnes qui prêtent un serment, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et tout ordre qui n'est pas donné mérite d'être ignoré. D'autres prennent des initiatives censées aider leur suzerain, et ce sans demander sa permission. Les Aes Sedai et les matriarches entrent dans une de ces catégories, semble-t-il. À part ça, j'en suis réduit à spéculer dans les circonstances présentes.
Et si je posais la question, simplement? Les Aes Sedai ne peuvent pas mentir. Si j'insiste beaucoup, Masuri me dira peut-être la vérité.
Comme s'il était frappé de colique, Balwer fit la grimace.
Peut-être, seigneur, peut-être. Parions plutôt qu'elle débitera quelque chose qui sonne comme la vérité. Les Aes Sedai, vous le savez, sont expertes en cet art subtil. Dans tous les cas, Masuri se demandera comment vous avez appris pour les rencontres. Et ça risque de l'amener à Aviar ou à Nérion, voire aux deux. Les choses étant ce qu'elles sont, comment savoir à qui elle en parlera? La simplicité n'est pas toujours la bonne option. Parfois, au lieu d'agir franchement, il vaut mieux porter un masque.
« Les Aes Sedai sont indignes de confiance, je te l'avais dit !»
intervint Aram.
« Je te l'avais dit, seigneur !»
Perrine leva une main, réduisant au silence l'ancien Zingaro. Mais la puanteur de sa colère le saisit à la gorge. Alors qu'une part de lui-même aurait voulu inhaler ses relents méphitiques afin qu'il le consume de l'intérieur, le jeune seigneur se força à expirer bruyamment. Puis il étudia Balwer. Si les Aes Sedai pouvaient distordre la vérité au point qu'on ne distingue plus le haut du bas, une question rhétorique, elles en étaient capables et ne s'en privaient pas, à qui devait-on se fier au bout du compte? Car la confiance était la clé de tout. Une leçon que Perrine avait payée au prix fort. Cela dit, il continua à contrôler sa propre rage. Un marteau devait être manié avec prudence, surtout devant une forge où la moindre erreur lui arracherait le cœur.
Porter un masque, dis-tu, maître Balwer? Serait-il judicieux qu'une partie des amis de Selandé passe plus de temps avec les Aiel? À les en croire, ils veulent devenir des guerriers du désert. Un bon prétexte, non? Et l'un d'eux pourrait se rapprocher de Berelaine et de sa conseillère.
« Ce devrait être faisable, seigneur, »
dit Balwer, après l'ombre d'une hésitation.
« Le père de Dame Médoré est un haut seigneur de Théar. Une filiation qui l'autoriserait à entrer en contact avec la première dame de Mayenne et lui fournirait un prétexte. Parmi les Kerieniens, un ou deux ont peut-être aussi le statut requis. Sélectionner ceux qui iraient vivre avec les Aiel serait encore plus simple. »
Perrine acquiesça. Avec un marteau, même quand on brûlait d'envie de tout écrabouiller, il fallait prendre d'infinies précautions.
Dans ce cas, faisons-le, maître Balwer. Mais j'ai une remarque. Depuis que Selandé est parti, tu essaies de m'influencer. À partir de maintenant, si tu as une proposition à faire, dis-le franchement. Même si je refuse 9 fois, je peux changer d'avis à la 10e. Je ne suis pas très intelligent, mais j'ai la volonté d'écouter ceux qui le sont. Toi, par exemple. En revanche, ne tente pas de m'orienter vers une décision. Je n'aime pas ça.
Balwer scia, puis s'inclina humblement, les mains croisées sur sa taille. Il exhalait la surprise et la satisfaction. La satisfaction?
Vous parlez d'or, seigneur. Mon ancienne employeuse détestait que je propose un plan sans qu'elle me l'ait demandé. Avec vous, c'est différent, et je me le tiendrai pour dit.
Le petit secrétaire hésita, puis décida de se jeter à l'eau.
« Vous servir m'est très agréable, et ce d'une manière que je n'attendais pas. Vous êtes ce que vous semblez être, sans aiguille empoisonnée cachée dans votre manche pour frapper sans prévenir. Si mon ancienne employeuse était réputée pour son intelligence, vous êtes à sa hauteur, dans un registre différent. Devoir quitter votre service me désolerait. Tout employé parle ainsi pour ne pas perdre sa place, mais dans mon cas, c'est sincère. »
Des aiguilles empoisonnées? Avant d'entrer au service de Perrine, Balouer travaillait pour une noble mourandienne. Soudain désargentée, elle n'avait pas pu le garder. À l'évidence, le Mourandi était un pays plus violent qu'on le disait.
« Je ne vois aucune raison de me séparer de toi, maître Balouer. Mais parle-moi franchement et laisse-moi décider. Pas de jeu d'influence. Et oublie la flatterie. »«
La flatterie, moi? Jamais, seigneur. En revanche, je m'adapte en fonction de mon employeur. Dans ma profession, c'est obligatoire. »
Le petit homme s'inclina de nouveau. Perrine ne l'avait jamais vu si obséquieux.
« Si vous n'avez plus besoin de moi, seigneur, puis-je me mettre en quête de Dame Médorée ?»
Perrine fit oui de la tête. Après une nouvelle courbette, Balouer se détourna et repartit vers le camp, se faufilant par petits bonds comme un moineau entre les pics de la palissade. Un étrange bonhomme.
« Je me méfie de lui, » marmonna Aram. « Pareil pour Célandé et les autres. Ils finiront tous par fricoter avec les Aes Sedai. Je t'en fiche mon billet. »«
Pourtant, il faut bien faire confiance à quelqu'un, »
marmonna Perrine. « Oui, mais à qui ? » Toute la question était là. En fourchant Trotteur, il le talonna. Posé dans un coin de la forge, un marteau ne servait strictement à rien.